Vous écoutez le studio Kalango à travers nos 20 radios partenaires dans les 8 régions et certaines localités. Il est 18h, le journal en français présenté par Diallo Mariama Kenda. Bonsoir à tous, voici nos titres. Nous l'annoncions hier, la libération de 14 détenus civils dans l'affaire dite attentat à la sûreté de l'État en 2015. Parmi ces personnes, le député Oumarou Dogari de Lumana, sa réaction dans un instant. Khalid Ikri, le président sortant de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a été reconduit à la tête de la dite institution. L'élection s'est tenue hier. Khalid Ikri le remporte avec 144 voix sur 253 votants. Vous entendrez la réaction du nouveau président dans ce journal. Une unité de traitement de l'or fait polémique à Tajajarat, un quartier situé dans la périphérie de la ville d'Agadez. Certains habitants évoquent l'utilisation de produits dangereux, démenti de la direction. Vous entendrez les uns et les autres dans ce journal. La partie magazine, c'est bien sûr la rétrospective de l'actualité de la semaine. Elle est signée Amadou Moumouni. Messieurs, dames, bienvenue. Nous l'annoncions hier, la libération des 14 détenus civils dans l'affaire dite attentat à la sûreté de l'État en 2015. Parmi ces personnes, les députés Issoufou Issaka Oumarou Dogari de Lumana, Sani Bala du MNSD. Le député Oumarou Dogari ne cache pas son immense joie après ses 15 mois d'incarcération. Il remercie sa famille politique, dit-il, pour son soutien et ses efforts durant cette épreuve. Je vous propose de le suivre.
S'il y a un avantage que la prison a, c'est de permettre de faire le combat avec soi-même. Et le combat avec soi-même, le gagner, c'est déjà gagner le combat avec les autres. Ces 15 mois nous ont permis d'analyser la situation. Nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre le combat au sein du moderne FA Lumana. Et la loyauté et la fidélité qui ont présidé à la création de notre parti nous commandent aujourd'hui d'être encore plus regardants par rapport à ce qui est notre objectif fondamental, faire accéder son excellence Mamadou à la magistrature suprême de notre pays. Pour l'instant, le plus important en ce qui nous concerne, c'est de se préoccuper fondamentalement de la mission que nos militants nous ont confiée, à savoir le travail parlementaire. Dès demain, nous serons à l'hémicycle et la ligne directrice de notre groupe parlementaire, donc de notre parti qui a déjà été tracé, nous allons travailler avec nos autres collègues pour renforcer cette ligne pour la défense des intérêts de nos concitoyens.
Vous venez d'entendre le député Oumarou Dogari. Les organisations membres de la société civile nigérienne ont élu hier soir leur représentant et non le président à la Commission nationale des droits humains. 3 candidatures ont été enregistrées, notamment celle du président sortant de la CNDH, Khalid Ikri. C'est d'ailleurs ce dernier qui a remporté les élections d'hier soir avec 144 voix sur 253 votants. Voici la réaction du représentant réélu de la société civile nigérienne, Khalid Ikri, juste après la proclamation des résultats.
Mes sentiments sont des sentiments de fierté et de respect pour la société civile nigérienne. Je remercie tous les collaborateurs, tous les camarades des structures de la société civile qui ont soutenu ma candidature. Je pense que nous partageons un intérêt commun qui est celui de la défense de l'image du Niger à travers le monde. Et c'est encourageant de voir que le Niger est mis en avant par des individualités. Et c'est ça qui peut faire grandir la société civile nigérienne. Et j'ai espoir que demain, la société civile nigérienne sera encore plus forte parce qu'elle va loin, elle va le Niger. Mon souhait, c'est que nous puissions, comme par le passé, continuer à travailler ensemble. Toutes les structures de la société civile nigérienne ont leur place au niveau de la Commission nationale des droits humains. Et ensemble, nous pouvons encore mieux faire.
Parmi ceux qui n'ont pas pu se faire élire comme représentants de la société civile à la Commission nationale des droits humains CNDH, il y a Yahya Abdou qui a obtenu juste 25 voix. Il dit qu'il est satisfait de son score. Nous l'écoutons.
Je considère que je n'ai pas réussi et donc il faut faire de la résistance, préparer demain. Et je considère que le plus important, c'est la lutte sur le terrain. C'est le travail pour la défense des droits humains. Mais tout bilan fait, par rapport à moi-même en personne, je trouve que j'ai réalisé pour une première fois, puisque l'autre fois, on a désisté pour le même professeur. Pour une première fois, à mon avis, je n'ai pas démérité, puisque c'est ce que j'ai mobilisé moi-même, tout réduit que je suis, par rapport à d'autres qui ont constitué tout un système où l'État même a intervenu jusqu'à nous infiltrer nous-mêmes.
Propos recueillis par Moutari Mahamadou. Le Centre culturel américain a servi de cadre hier soir à la tenue d'une conférence publique sur le thème « Le droit international humanitaire et les défis de la participation directe des civils aux hostilités ». Cette conférence a été organisée à l'initiative du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et les droits de l'homme. Alad Emmanuel Goubadje explique ici l'intérêt d'une telle rencontre au micro de notre reporter Alassane Kouzima Mahamadou.
Le domaine du droit international humanitaire, c'est un droit de guerre. Et qui parle de la guerre, parle des hostilités. Si vous parlez des hostilités, vous parlez des belligérants, les forces en présence. Mais à côté des forces en présence, vous avez également la population civile. D'où le thème d'aujourd'hui, la participation directe des civils aux hostilités. Donc vous voyez, c'est un peu toutes ces couches-là que nos activités touchent de manière concrète. À court terme, c'est d'abord l'information et la formation sur les notions du DIH et des droits de l'homme. Eh bien, à court terme, à long terme, nous prévoyons d'axer nos interventions dans le domaine de l'action humanitaire, de la paix et de la sécurité, de manière générale.
La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier 25 mars et elle s'achève dans 4 jours le 28 mars prochain. La cible, les enfants âgés de 0 à 5 ans. La Wali Rachel Safiatou, chargée de communication du district 3, affirme que tout se déroule bien. Elle explique à notre micro la démarche.
On va faire de porte en porte. Il faut d'abord une mobilisation sociale avec les relais. Après, les agents vaccinateurs vont vacciner un peu partout, dans les quartiers et les villages.
C'est quoi les relais?
Bon, c'est les femmes qui informent la population pour leur dire qu'il y a une journée pour la vaccination, la poliomyélite.
Et ça a commencé?
Ça a déjà commencé. La mobilisation a commencé depuis le 21. Dans les quartiers, chaque femme relais rentre dans les quartiers, informe chaque maison pour leur dire qu'il y a une journée de vaccination. Ça se fait par voie orale. C'est des gouttes qu'on donne aux enfants. Polio antivirus, 3 gouttes avant ou avant.
La Wali Rachel Safiatou, chargée de communication du district 3. Les habitants de Tajajarat, un quartier situé dans la périphérie de la ville d'Agadez, s'inquiètent des conséquences des activités de l'unité de traitement de l'or. Cette unité utilise des produits dangereux tels que le mercure, disent les populations qui affirment constater l'apparition des maladies respiratoires du fait de l'inhalation de la poussière venant de cette unité. Les enfants sont les principales victimes. Voici les témoignages de certains d'entre eux.
Ici, ce site de traitement d'or est situé à 10 mètres de chez moi. S'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose sur moi, je suis une grande personne, âgée même de 53 ans. Moi et ma famille sommes infectés par ces résidus. Et cette poussière, quand elle se dégage, elle rentre dans nos ustensiles, nos cases et même nos canaries d'eau. Vraiment, que les autorités aient un droit de regard là-dessus.
Le problème, ce n'est que c'est avec le produit dont ils font les traites de l'or. Donc, ce produit, c'est du mercure métal. La plus grande chose, que nous, on pense à la nappe phréatique qui est à 30 mètres du sous-sol et avec les nettoyages, l'eau qu'ils nettoient, ils vont où? Ils vont sur la nappe. Ça, c'est notre souci. Parce que après, c'est la population d'Agadez qui va consommer cette eau. Et nous sommes les pauvres du quartier.
Ce bruit dérange tout le monde matin et soir. Et ma vieille est hyper tendue à cause de ce bruit qu'elle ressent dans sa tête. Elle a préféré quitter sa case et aller vivre en brousse, me laisser seule. Même les enfants, si il crie, sa tension monte.
Le responsable de l'unité de traitement d'or admet l'utilisation du mercure, mais affirme-t-il cela est sans danger pour les populations? Mohamed Ali affirme qu'ils ont eu une autorisation du ministère de Mines pour installer l'unité en question. Mohamed Ali est au micro de notre correspondant dans la région d'Agadez, Moussa Maman.
C'est vrai, on met un produit mercure, pas une grande quantité, et récupérable encore. Les gens qui disent on utilise les mauvais produits, nous on a une autorisation en dehors d'Agadez, on a un site là-bas, il y a un site de Guidandakada. C'est là-bas qu'on fait les cyanures. Quand on brûle ici, on prend les sables qui est ici et on l'amène là-bas. Avec une autorisation, on a une autorisation du ministère des Mines pour le traitement des minerais à site de la route des Enders. Ici, là où on est là, on a fait une étude d'impact, on a tout ce qu'il faut, la mairie, l'environnement, le gouvernorat, le ministère des Mines. Il y a l'environnement qui vient chaque fois pour contrôler. Et si on met quelque chose de grave, c'est leurs enfants qui travaillent avec nous. C'est les gens des mêmes quartiers qui travaillent avec nous. C'est une fausse accusation. Ça, c'est une création d'emploi pour les gens. Il y a des gens qui disent que nous, on a des bruits, on les empêche de dormir. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de poussière.
Parlons sport à présent. Les lampions de la première édition de la Coupe de Taekwondo, dénommée Coupe Alphaga, se sont éteints hier soir à la tribune publique de Maradi. Les athlètes venus de toutes les régions ont rivalisé de talons du 24 au 25 mars pour défendre vaillamment les couleurs de leur club respectif. Détail avec notre correspondant dans la région, Mohamed Maman.
Plus de 300 athlètes dans différentes catégories se sont affrontés dans le calme et la discipline. 150 combats ont été organisés pour départager les taekwondoïs. À la fin de cette compétition, plusieurs médailles et coupes ont récompensé athlètes et les trois meilleurs clubs de la compétition, tous de Niamey. Soumana Sanda, président de la Fédération nigérienne de taekwondo.
Ils continuent à faire preuve d'humilité et de sang-froid, comme je l'ai indiqué. Et je pense que c'est cela qui est important, parce que c'est comme cela qu'ils pourront continuer à aider les autres jeunes. Notre objectif est de faire en sorte que pour tous 2020, nous ayons plus d'athlètes, donc plus de médailles.
Le vice-champion olympique de taekwondo, Abdulrazak Alphaga, explique pourquoi le choix de Maradi pour cette première édition.
Maradi, depuis que je suis dans mon club pour combattre, je vois les athlètes de Maradi. Vraiment, c'est des gens qui ont du talent. Vous connaissez un Nigérien, comment il a le foie, il a le cœur. Vraiment, c'est pour cela que j'ai décidé de commencer avec la région de Maradi.
Le président de la Fédération de taekwondo a élevé Alphaga au rang de maître ceinture noir 3e Dan. La deuxième édition aura lieu l'année prochaine à Agadez. Mohamed Maman depuis Maradi pour le studio Kalangou.
Comme toutes les semaines, le point des faits ayant marqué l'actualité, la rétrospective signée Amadou Momouni.
Ils sont libres depuis ce samedi. Les 14 détenus civils dans l'affaire dite attentat à la sûreté de l'État en 2015. Tous ont été relâchés en dehors du fils de Salou Souleymane, le cerveau présumé de l'affaire. Les 10 autres restants sont essentiellement des militaires. Maître Kadri Ali, l'avocat de la défense, explique comment leurs clients ont pu recouvrer leur liberté.
Il y a un juge d'instruction qui a été saisi, qui l'a investigué. Il a estimé au stade actuel qu'il n'y a pas de charges suffisantes à l'encontre de ces personnes-là. Il a cru bon de les libérer. Il a rendu sa décision de non-lieu partiel en ce qui concerne ces personnes. Mais le dossier va continuer son cours normal parce que la chambre de contrôle du tribunal militaire sera saisie de l'ensemble du dossier et elle avisera en temps utile.
À l'Assemblée nationale, ils sont 10, les députés membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate ou de 200 milliards de francs CFA. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a officiellement installé cette commission ce lundi. Ousseni Tini.
Votre mission consistera à recueillir des éléments d'information sur les faits déterminés se rapportant à cette affaire. Vous en ferez rapport à l'Assemblée nationale conformément à l'article 124 du même règlement intérieur.
Dans la région de Diffa, les éléments de la secte Boko Haram se font toujours entendre. Lundi, ils ont attaqué aux environs de 17h Garindoku, un village situé à 35 km de la commune de Geskirou. Le bilan, un civil tué et une boutique pillée et incendiée. Les assaillants ont pu s'enfuir en emportant un certain nombre de biens. Mardi, la chambre de jugement de la cour d'appel de Niamey a commencé à juger plusieurs des éléments présumés de cette secte terroriste. Environ 42 dossiers impliquant plusieurs personnes ont été retenus selon une source proche du barreau nigérien. Le procès a eu lieu du 20 au 24 mars. Plus de 1000 personnes soupçonnées d'être proches de Boko Haram sont détenues depuis 2015 en attente de jugement. Les 15 maires des communes et l'ensemble des conseils régionaux d'Agadez ne sont pas satisfaits de la gestion actuelle de la migration. Ils ont fait savoir prévoir dans une déclaration rendue publique lundi soir en ligne de mire la loi de 2015 relative au trafic illicite des migrants qui prévoit des peines de prison très lourdes pour ceux qui se livrent à cette activité. Les élus locaux ont aussi vivement dénoncé le refus des trois sociétés minières de la région, à savoir le défilé d'Areva, Kominak et Somaïr et la Sonichard, de mettre les communes dans certains de leurs droits. Le président du conseil régional, Mohamed Anako, n'est pas tendre sur la question de la migration.
On nous empêche de mener des activités dans notre région, tout simplement parce que l'Europe ne veut pas qu'il y ait des migrants qui arrivent. Nous, on ne doit plus mener des activités génératrices de revenus à Agadez. C'est ce que ça veut dire. On est considéré comme des criminels à travers cette loi. Donc c'est faux. Nous sommes des Nigériens comme tout le monde.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.